Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue dans Du Grain à Moudre, nous sommes ensemble jusqu'à 19h. C'est assez simple, tout compte fait, de ne pas tomber malade. Il suffit de se laver les mains pendant 30 secondes plusieurs fois par jour, de jeter son mouchoir après s'être mouché, de mettre un bonnet, des chaussettes et une écharpe quand il fait froid, de se protéger du soleil quand il fait chaud, de s'hydrater en toutes circonstances. S'hydrater, mais éviter de boire. L'abus d'alcool est dangereux pour la santé. Il l'est aussi pour votre intégrité physique et celle de ceux qui vous croisent. Un verre, ça va. Trois verres, bonjour les dégâts, nous rappelle ce vieux proverbe du XXe siècle. En revanche, sur les fruits et légumes, on peut se lâcher à raison de 5 par jour. C'est l'idéal. Sans abuser pour autant des jus de fruits frais, trop sucrés. Ne pas dépasser un verre toutes les 24 heures. Toutes ces recommandations et bien d'autres encore accompagnent désormais notre quotidien. Les campagnes de prévention se multiplient au point que l'accumulation des messages peut finir par devenir contre-productive, autrement dit ne pas avoir d'effet sur les comportements individuels. Alors jusqu'où pousser le principe de prévention? C'est la question que nous allons poser ce soir à 4 invités. David Heard, bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes le directeur de la communication et du dialogue avec la Société de Santé Publique France, qui est un établissement qui est né de la fusion l'an dernier, de l'INPES, l'INVS et de l'EPRUS. J'ai découvert à l'occasion cet établissement de préparation et de réponse aux urgences sanitaires.
Tout à fait.
Pour discuter avec vous, Anne Laurent-Beck, bonsoir.
Bonsoir.
Chargée de mission pour la Société française de santé publique. C'est une association reconnue d'utilité publique qui défend une stratégie de prévention à travers la promotion de la santé.
Entre autres, oui.
Entre autres, bien sûr. Troisième invité, Luc Berlivet, bonsoir.
Bonsoir.
Historien chargé de recherche au CNRS, vous êtes intéressé notamment aux campagnes de prévention en France depuis les années 70. Vous allez pouvoir nous dire comment elles ont évolué. Puis notre quatrième et dernier invité, c'est Hervé Flancard. Bonsoir.
Bonsoir.
Sociologue, maître de conférence à l'Université du Littoral Côte d'Opale. C'est à Dunkerque, c'est bien ça?
Oui, Dunkerque, Calais-Boulogne.
Et vous avez publié l'an dernier au PUF des risques et des hommes. Alors, est-ce que vous vous êtes tous bien lavé les mains, d'ailleurs, avant d'entrer dans ce studio et suivi les recommandations qui sont celles qu'on entend dans les spots, notamment juste après ce journal? Je fais un petit tour d'horizon rapide. Il n'y a pas de nom, en tout cas, donc ça veut dire oui?
Non.
Non, vous ne l'avez pas fait, Anne-Laurent Beck. Bon, alors j'ai un autre conseil à vous suggérer. Écoutez cet autre message qu'on entend beaucoup sur les ondes en ce moment.
Attention, vague de froid exceptionnelle. Quand on est exposé au froid, cela peut entraîner des risques graves pour la santé, notamment pour des personnes âgées ou souffrant de maladies chroniques. Si vous devez sortir, ne faites pas d'efforts physiques intenses. N'oubliez pas de rajouter par-dessus vos vêtements chauds un coupe-vent imperméable. Cela protège encore mieux du froid. Couvrez bien les parties du corps qui perdent le plus de chaleur. Les mains, les pieds, la tête, le cou. Ceci est un message du ministère chargé de la Santé et de Santé publique France.
Bon alors, Anne-Laurent Beck, puisque manifestement vous êtes la mauvaise élève dans ce studio, qu'est-ce que vous pensez en tout cas de ce message en particulier? Est-ce que c'est un message qui vous paraît utile? Nous, je dois dire que c'est ce qui nous a donné envie de faire cette émission, parce qu'on s'est dit, mais quand même, on en est aujourd'hui à voir des messages d'une autorité publique nous disant qu'en gros, quand il fait froid, il vaut mieux se couvrir quand on sort dehors.
Alors oui, c'est vrai que quand on l'écoute comme ça, et nous-mêmes quand on l'a lu et entendu, ça peut nous faire sourire, etc. Donc voilà, après, l'idée c'est quel sens a ce message, à quoi il répond éventuellement comme problématique de santé publique, à quoi aujourd'hui un certain nombre de professionnels de santé sont confrontés comme problématique de santé, et qu'est-ce qu'ils ont jugé bon de devoir rappeler. Après, évidemment, je suis assez d'accord de dire que quand on la découvre, ou quand on l'écoute, ou quand on lit ce qui est sur le site internet, on est quand même, de prime abord, un peu amusé, y compris quand on est un professionnel de santé publique.
Alors, David Heard, ce message, il est signé de Santé publique France, dont vous dirigez la communication. Qui décide d'enclencher une campagne comme celle-ci, et dans quel but?
Alors en fait, cette campagne, elle est un petit peu particulière parce qu'elle est liée à ce qu'on appelle un événement sanitaire exceptionnel, c'est-à-dire qu'on a une période de grand froid, on en a un autre concomitant qui est une épidémie de grippe. Et donc, dans ce contexte-là, le ministère de la Santé choisit d'activer un dispositif, il s'appelle le plan grand froid, qui déclenche un certain nombre de mesures, dont des mesures de communication. Et je pense que c'est important de rappeler qu'il y a non seulement des campagnes, mais il y a aussi d'autres dispositifs qui sont liés à cette période de grand froid.
Voilà, la prévention ne se limite pas à des campagnes sur les médias. Mais c'est quoi le but? C'est de prévenir quoi des comportements qui pourraient mettre les personnes en danger parce que elles ne sauraient pas que bah, quand il y a ces périodes de grand froid, il faut rajouter quelques couches de vêtements.
C'est pas tout à fait aussi simple que ça. Le fait que le grand froid représente potentiellement une menace pour la santé n'est pas forcément un fait connu de tous, et notamment pas des personnes les plus fragiles et potentiellement les plus exposées aux risques liés au froid. Et donc, il est absolument primordial de s'assurer que, face encore une fois à un événement qui est exceptionnel, avec un froid qui est particulièrement intense, il faut rappeler, et c'est le premier rôle de cette campagne, de faire savoir que le froid intense représente des risques pour la santé et que donc, il faut s'en prémunir.
Alors, Luc Berville-Livet, j'ai regardé pour préparer cette émission sur le site de Météo France pour voir quelles avaient été les précédentes vagues de grand froid. Alors, après-guerre, à partir en tout cas donc, de 1945, il y en a eu trois qui ont été particulièrement importantes, dont la dernière, du 3 au 17 janvier 1985. Alors, je vous avoue que je ne me souviens pas du tout de cette vague de grand froid. Mais en tout cas, est-ce que vous qui avez observé les campagnes de prévention là, depuis, donc, je disais, à peu près les années 70, est-ce qu'on aurait pu imaginer à l'époque, donc mettons 1985, des messages d'une telle nature, ou bien est-ce qu'on est passé dans une autre façon de mener des campagnes de prévention aujourd'hui ?
Alors, il est très possible que des intervenants à ce moment-là aient produit des messages de prévention qui n'étaient pas nécessairement appelés comme tels d'ailleurs, de ce type. J'avoue pas en avoir le souvenir. Vous m'avez présenté comme historien, en fait je viens de la science politique, j'avais étudié la genèse des campagnes de prévention comme modalité nouvelle justement de l'action publique, et moi ce qui m'intéressait initialement, c'était plutôt la manière dont la prévention avait été mobilisée, pardonnez-moi, dans des domaines où il n'existait aucun moyen d'action, ou plus exactement, où la thérapeutique était assez défaillante, en particulier la prévention du cancer du poumon, de l'alcoolisme, etc. Ce dont vous parlez là, ce sont des campagnes qui, au moins, n'étaient pas nécessairement dans le giron, entre guillemets, de la santé publique, ou du moins initialement. Donc, votre question renvoie aussi à la manière dont la santé publique s'est redéfinie en France, y compris au plan institutionnel. Quels sont les responsables de quels problèmes public et ce type de problème.
Est-ce qu'elle s'est redéfinie à travers, à partir d'un certain nombre d'événements, et celui qui me semble le plus évident, en tout cas intuitivement, Hervé Flancard, c'est, alors on n'est pas dans une période de grand froid, c'est plutôt l'inverse, on est dans une période de grande chaleur, c'est la canicule de 2003. Est-ce qu'on, vous, comme sociologue, vous y voyez une forme de tournant dans l'appréciation du risque et donc dans la réponse qui est apportée à ces risques?
Je pense qu'il y a de plus en plus une prise de conscience que les individus perçoivent mal les risques. C'est-à-dire que un risque, c'est à la fois des dommages potentiels face à un événement. Là, ça peut être la grippe, ça peut être le froid, ça peut être la canicule. Et puis une probabilité que cet événement se produise, la mort, le fait d'être malade, d'être, etc. Et dans le fond, ces statistiques, il n'y a que les statistiques qui peuvent permettre de mesurer à la fois la probabilité et l'étendue des dommages. C'est pas le citoyen ordinaire avec son expérience qui est limitée qui peut le faire. Donc il y a une prise de conscience, et il y a eu des études qui ont été faites en sociologie, mais surtout en psychologie cognitive, pour montrer qu'il y a des biais de perception, que les individus perçoivent mal le risque. Et donc, ça fait partie du rôle des pouvoirs publics et des politiques de informer, de réduire l'écart entre ce qui est perçu et ce qui est la réalité.
Est-ce que vous diriez les uns et les autres que c'est une question de perception du risque, ou bien est-ce qu'on pourrait aussi y voir une forme d'intolérance au risque, c'est-à-dire d'une société qui aurait de plus en plus de mal à accepter, et d'une société donc d'individus à accepter qu'ils courent des risques à travers leur pratique, et donc auquel cas l'autorité publique serait là pour les préserver d'un maximum de dangers. David Hurd.
Je crois surtout que ce qui amène les pouvoirs publics à prendre la parole en pareille circonstance, encore une fois dans le cadre d'événements sanitaires exceptionnels, c'est que on observe par le passé un recours aux soins qui s'intensifie, et c'est vraiment l'exemple de la canicule est effectivement très bon. À l'époque, peut-être qu'on aurait jugé excessif de rappeler aux gens qu'il fallait s'hydrater parce qu'il faisait chaud. Quand on a vu le recours aux soins massif et les conséquences pour la santé publique que l'on connaît, on s'aperçoit que finalement le risque d'hyperthermie était vraiment très très fort pour beaucoup de personnes, notamment encore une fois les personnes les plus fragiles, et que donc il est absolument indispensable de rappeler quels sont les gestes de prévention face à ces situations-là qui sont encore une fois exceptionnelles. C'est pas la vie de tous les jours.
Anne-Laure Beck.
Et si on prenait le problème autrement que par le risque ?
Allons-y.
C'est-à-dire que là, on évoque la question du risque depuis tout à l'heure. Et si finalement l'appréciation des individus qui sont confrontés à une campagne de prévention, par exemple, c'était peut-être la perception et la notion de gravité du risque, mais c'était aussi, surtout, la capacité qu'ils ont éventuellement à s'en prémunir. Et cette capacité-là, c'est pas seulement une capacité individuelle. C'est-à-dire, pour moi, les campagnes de prévention, elles font référence effectivement peut-être à l'appréhension qu'on a du risque. On fait partie à la Société française de santé publique des gens qui travaillent aussi sur une approche différente en santé publique que celle du risque. Et puis la question, c'est la perception du risque, mais quels moyens on a de s'en prémunir ? Et on n'est pas égaux face à ça.
Oui, mais sur cette question du risque, c'est-à-dire moi, comme individu, si j'entends un message de prévention, je vais peut-être prendre conscience d'un risque dont je n'imaginais même pas qu'il puisse exister. Donc ce risque-là, en tout cas du point de vue de ceux qui reçoivent les messages, il existe bien.
Bien sûr, il peut y avoir une perception du risque, il peut aussi y avoir un effet de mise à distance d'un certain nombre de risques. Voilà. Mais évidemment que les campagnes peuvent aussi rendre les individus meilleurs connaisseurs de la notion de risque.
Luc Berlivet.
La question de l'évitement du message là, qui vient d'être abordé s'est posée très très tôt par les pionniers de la communication en santé publique des grandes campagnes de prévention. Et bien sûr, elle s'était posée aussi dans la publicité précédemment. Mais ce qui était aussi discuté dans l'intervention précédente, c'est la question de la tension entre une communication individualisée et la dimension socialisée de la réception de ces messages. Il n'y a pas de manière facile d'aborder cette tension, bien sûr.
Hervé Flancard, sur cette question de l'appréciation du risque, je crois que c'est vous qui expliquez que, en gros, plus un risque va être présenté comme faible, plus il y a de chances qu'il soit surestimé, donc peut-être davantage pris en compte. Et s'il est présenté comme fort, on va peut-être avoir en face des comportements qui ressembleraient à une forme de résignation. Donc la façon dont on présente le risque dans les campagnes de prévention, puisque c'est notre sujet ce soir, c'est aussi une question de bon dosage.
Alors c'est une question de dosage, mais c'est aussi une question de... Ce que vous disiez tout à l'heure, il y a effectivement une intolérance plus grande vis-à-vis de certains risques, pas vis-à-vis de tous les risques. Et il y a le fait qu'on a remarqué que quand un risque a fortement diminué, par exemple, je vais prendre le cas de la mort chez les nouveau-nés, donc qui se mesure à travers donc la mortalité infantile, c'est-à-dire avant un an, et on constate qu'elle a été très fortement diminuée, même dans les 30-40 dernières années, si je me souviens bien, elle a été divisée à peu près par 10. Et en fait, donc il n'y a jamais eu aussi peu de morts de nourrissons, il n'y a jamais eu aussi peu de femmes qui décèdent en couche, et pourtant il n'y a jamais eu autant de procès aux cliniques et aux maternités qui accouchent. C'est-à-dire que quand la mort du nourrisson était quelque chose qui était intégré, c'est-à-dire qu'on considérait que ça faisait partie de la vie, que quand on donnait naissance à un enfant, il pouvait disparaître, etc., d'une certaine manière, on n'était pas choqué, on n'était pas scandalisé par le fait que l'enfant meurt. Aujourd'hui, c'est devenu une situation extraordinaire que l'enfant meurt. Et donc là, on est dans un risque résiduel, et donc un risque qui est d'autant plus mal supporté qu'il est résiduel. Ça peut paraître paradoxal, mais c'est le cas.
Est-ce que vous êtes obligé de tenir compte de ces phénomènes-là, David Hurd, dans les campagnes que vous menez à travers Santé publique France ?
En fait, je pense qu'il faut distinguer deux types de dispositifs de communication. On a des dispositifs ponctuels, des dispositifs d'information ponctuels qui sont liés, encore une fois, à des événements sanitaires exceptionnels pour faire connaître des risques dont le public n'a pas forcément conscience. Et c'est vraiment des campagnes qui sont destinées à effectuer une prise de conscience sur la population. Grand froid, grippe, il y a une épidémie. On a d'autres dispositifs de prévention, et je mettrai le premier dispositif du côté de l'information. On a des dispositifs de prévention qui sont des dispositifs pérennes, qui sont destinés à agir sur le long terme, sur les habitudes de vie, sur les comportements en santé, et qui, bien souvent, qui n'abordent pas la question sous l'angle du risque, mais plutôt sur ce que l'on appelle dans notre jargon des déterminants de santé, et donc qui repèrent quels sont les grands déterminants de santé en population générale.
C'est par exemple les fameux 5 fruits et légumes par jour, ça rentre dans cette catégorie-là ?
La nutrition, les consommations d'alcool, de tabac, l'activité physique. Et là-dessus, il faut vraiment... on a un autre enjeu, non pas d'informer, vous évoquez les 5 fruits et légumes, c'est un des repères en santé les mieux connus des Français, mais l'enjeu est plutôt d'inciter au passage à l'acte, c'est-à-dire d'accompagner les gens dans l'adoption de ces habitudes de vie qui sont, on le sait, favorables à la santé. Et on n'est plus là dans une simple campagne de communication pour informer sur le risque, on est d'ailleurs bien loin du risque et on est vraiment dans une logique d'accompagnement de nos publics pour, encore une fois, promouvoir une meilleure santé des populations.
Alors quand on pose ce soir la question jusqu'où pousser le principe de prévention, est-ce que ça veut dire que c'est ça la mission principale de la prévention, Anne-Laurent Beck, qui est celle finalement d'agir sur les comportements, d'orienter même peut-être les comportements individuels pour avoir une diminution des risques?
C'est une petite partie de la prévention et je pense qu'il faut vraiment très clairement dire que la prévention, ça n'est pas changer les comportements individuels uniquement. La prévention, ça englobe aussi, et c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est-à-dire que d'abord, on ne peut pas considérer qu'on est tous des individus très sérieux qui appliquons un message à la lettre, qui que nous soyons, quelle que soit la période de notre vie, quelles que soient nos conditions de vie, etc. C'est-à-dire que ça voudrait dire qu'un message permet, quels que soient les individus qui sont en face, de changer de comportement. Évidemment, ça n'est pas vrai.
L'idée... Mais c'est quand même un petit peu le but recherché.
En tout cas, c'est... Une partie de la prévention, évidemment, travaille sur les comportements individuels, mais une campagne de prévention n'aura aucune efficacité si elle n'est pas accompagnée par ce qu'on appelle le travail sur les déterminants de santé, c'est-à-dire sur toutes les conditions qui font qu'un individu, par exemple, mange correctement, et ça n'est pas lié qu'à ses comportements individuels, bien loin s'en faut.
Sur la question de la dimension de contrôle social et de contrôle des comportements qui pourraient être liés aux campagnes de prévention. Luc Berlivet, comment est-ce que vous voyez les choses?
Ah, ça, c'est une préoccupation, c'est une accusation que l'on lance très fréquemment depuis
l'institution
de ces campagnes. Je pense que c'est indépendant de la réception de Michel Foucault, même si par ailleurs, il y a eu des croisements ensuite à certains moments. Simplement, le caractère un peu facile de cette accusation, c'est lorsque l'on ne prend pas en compte quelle est véritablement l'attitude des personnes qui sont en charge de ces campagnes. Et si on le fait, on se rend compte que c'est une préoccupation qu'elles ont à cœur. Ça explique par exemple l'évolution des campagnes dans une perspective qui était destinée à éviter justement ce côté donneur de leçons, moralisateur, etc. Et les tentatives pour mobiliser d'autres ressorts de l'activité humaine et notamment cette manière de présenter les choses sous un jour positif comme les campagnes comme devant conduire les individus à essayer de se réaliser, etc. Mais on voit bien dans cette perspective que l'on reste dans une dimension assez psychologique, voire même psychologisante. La question, ça a toujours été l'articulation de ce type de communication avec des interventions dites, qu'on appelait auparavant de terrain, des interventions de santé publique plus générales, qui peuvent plus facilement prendre en compte notamment la dimension socialisée de ces individus.
Mais vous diriez, Luc Berlivet, qu'il y a eu des campagnes de prévention qui étaient plus culpabilisantes autrefois et qu'aujourd'hui, on est passé à un autre registre ?
Il me semble que c'est une préoccupation qui est plus forte. Bon, ce qui ne veut pas dire que on n'ait pas vu ici ou là des campagnes qui retombaient dans ce travers. Je dirais que de toute manière, encore une fois, c'est pas nécessairement se focaliser sur la tonalité des campagnes, des messages, etc. Ça risque de perdre de vue justement cette dimension extrêmement importante que pointait Anne Laurent à l'instant, à savoir l'articulation entre l'individu recevant les messages et l'individu socialisé appartenant à différents mondes sociaux par ailleurs.
Hervé Flancard.
Oui, en fait, je pense qu'il y a des allers-retours entre quelque chose de plus, je dirais, dramatisé et quelque chose de plus soft, mais il y a des moments où il a fallu en fait dramatiser les choses. Par exemple, si on prend les accidents de la route, hein, si on remonte au milieu des années 70, il y a autour de 14 000, 15 000 morts, même un peu plus, 16 000 morts, je pense en 73 ou 74. Et en fait, là, on a décidé de dramatiser, parce que l'accident de la route, c'est en fait quelque chose qui arrive à tout le monde, mais qui est un peu des morts perlées tout au long de l'année, et à la fin de l'année, on fait 16 000 morts.
Enfin, on a décidé de dramatiser, on a surtout décidé de punir, par exemple. Mais en imposant des règles qui, si elles ne sont pas suivies, peuvent faire l'objet de poursuites judiciaires. Est-ce qu'on est peut-être justement là plus dans la prévention, mais davantage dans la coercition, encore que les deux sont peut-être un peu liés, je ne sais pas.
Oui, mais pour qu'une sanction soit considérée comme légitime et donc ait vraiment son effet, il faut que les gens soient persuadés qu'elle lutte contre quelque chose, contre un risque qui est réel. Et là, je voulais évoquer l'opération qui a été faite par la sécurité routière en 1973 avec Mazamet, ville morte. Et en fait, on a demandé aux habitants de Mazamet, qui étaient 16 000 habitants à cette époque-là, c'est-à-dire le nombre de morts sur la route dans l'année, de se coucher par terre, de jouer le mort. Et donc, d'une certaine manière, on a rassemblé dans une catastrophe quelque chose qui était des morts tout au long des 365 jours. Parce que la catastrophe est quelque chose qui est marquant. Et donc, quand il y a quelque chose qui peut marquer les esprits, et à partir de là, si on commence à prendre conscience que la façon dont on conduit peut amener autant de morts, là, on peut commencer à mettre des sanctions avec une certaine légitimité.
Luc Berlivet.
Alors, la sécurité routière a cette, je ne sais pas si on peut parler de tradition, mais en tout cas, il y a effectivement plusieurs campagnes, jusque très très récemment, qui empruntaient à cette modalité de la dramatisation. Mais bon, la sécurité routière n'est pas véritablement au cœur, enfin, ce n'est pas le type d'annonceur dont il est question ce soir lorsque l'on parle de campagne de prévention en santé publique. Et par ailleurs, ce qui est aussi intéressant dans l'histoire de la sécurité routière et d'autres domaines de la prévention publique, c'est la manière dont justement cette dramatisation a toujours été discutée et critiquée, y compris par des protagonistes de la prévention, comme risquant d'induire des effets d'évitement du message. Parce qu'il y a aussi cette idée que... Alors, qui est une question extrêmement difficile à aborder par ailleurs.
Et justement, alors comment est-ce qu'on répond à cette critique, ou en tout cas à ce risque d'avoir des campagnes qui sont tellement dans la dramatisation qu'elles pourraient être contre-productives. David Hurd, est-ce que, par exemple, vous avez, vous, des outils d'évaluation qui vous permettent d'ajuster les campagnes de prévention? Alors, bon, certes, la prévention routière a cette histoire-là, mais sur quelque chose de plus récent, qui sont les campagnes de lutte contre le sida, où on a bien quand même pu observer qu'il y avait quand même des moments où on était dans un message peut-être un petit peu plus doux, et puis d'autres fois, on était quand même dans des messages qui cherchaient presque à faire peur, c'est-à-dire à ce que la maladie fasse peur pour qu'on puisse éviter. Alors peut-être pas de côté des autorités publiques, mais enfin un certain nombre aussi d'associations qui mènent des campagnes de prévention. Je pense par exemple à AIDS, je pense par exemple à ACT UP. On était quand même dans des messages qui pouvaient être reçus de manière un petit peu violente parfois, David Hurd.
Alors vous abordez beaucoup de choses. Donc je crois d'abord que je veux vraiment redire, je pense que c'est important de bien distinguer les campagnes de sécurité routière qui sont des campagnes qui accompagnent des mesures législatives, c'est-à-dire qui font une forme de rappel à la loi. Il est interdit de conduire à plus de 130, il est interdit de consommer de l'alcool. Et donc on peut aussi se permettre d'être choquant avec nos publics parce que derrière on a la loi qui nous soutient. Ça n'est pas le cas en santé. Hein. Le libre arbitre reste maître de soi. On a le droit de fumer, on a le droit de manger gras, sucré, salé, et on ne peut pas faire appel à des campagnes choc pour agir sur les comportements et les représentations.
Alors regardez quand même les images qui sont sur certains paquets de cigarettes.
Pardonnez-moi, il ne s'agit pas de campagne de communication, il s'agit de faire du rappel des risques. Maintenant, évidemment, effectivement, pour susciter l'envie d'adopter des comportements favorables à la santé, il peut être utile de temps en temps, ponctuellement, de passer par des phases de rappel des risques. Et oui, effectivement, certaines campagnes, parmi d'autres, certains dispositifs de communication utilisent le levier rappel des risques. Aujourd'hui, les modèles anglo-saxons sur lesquels on commence à se calquer nous montrent que finalement, il faut quasiment alterner des campagnes qui sur le tabac, par exemple, hein, des campagnes qui rappellent l'incidence du tabagisme sur le cancer du poumon, et par ailleurs, des campagnes qui donnent envie d'arrêter de fumer et qui proposent des services d'accompagnement des fumeurs pour se sevrer du tabagisme tel que celui qu'on connaît en France, Tabac Info Service par exemple. Et aujourd'hui, nous-mêmes, à Santé Publique France, on joue un petit peu sur ces deux leviers. On a des campagnes de rappel des risques, mais on a aussi continuellement la promotion du dispositif Tabac Info Service, qui est un dispositif d'accompagnement dans l'arrêt du tabac, avec des entretiens avec des tabacologues à distance.
Donc c'est pas forcément un mode de communication qui aurait fait ses preuves de manière absolue et définitive, mais c'est plutôt dans l'alternance des modes de communication, oui, qu'on peut trouver une forme d'efficacité. efficacité. Vous êtes d'accord avec ça, Laurent Beck ?
D'abord, l'approche par la peur est encore quelque chose qui est très controversé en France, à la fois dans le champ de la prévention, de la promotion de la santé, etc. Enfin, c'est encore des approches qui sont très critiquées, y compris dans notre propre champ, justement, par rapport à la dimension culpabilisante que ça peut avoir, la dimension de la mise à distance, la dimension aussi, je crois qu'on n'a pas parlé d'éthique et de respect des droits, etc.
Mais si c'est efficace, finalement, après tout, pourquoi s'en priver ? Alors, c'est ça la question.
Est-ce que l'efficacité justifie tous les modes de communication ? C'est quand même une vraie question à se poser. Et puis, la question de la peur n'est pas tranchée. Enfin, l'efficacité de la peur, j'ai pas le sentiment qu'elle soit tranchée. Mais bon.
D'accord. Il n'y a pas de campagne récente en France qui utilise la peur comme levier d'action. Et faire du rappel des risques ne signifie pas que l'on fasse peur aux gens. Et que l'on fasse peur aux gens, parce que d'ailleurs, il y a aussi la peur du gendarme, encore une fois, dans le cas de la sécurité routière, avec un risque immédiat. C'est une chose, ce n'est pas un levier qui est utilisé, en tout cas par les pouvoirs publics, pour promouvoir des comportements favorables à la santé. Vous évoquiez tout à l'heure des campagnes associatives. Les associations ont un autre enjeu, qui est aussi de faire du fundraising, de la collecte de fonds. Et donc, ils utilisent parfois des campagnes qui sont chocs, mais qui sont moins des campagnes, pas tant des campagnes de prévention que des campagnes de notoriété et qui visent à récupérer des fonds pour lutter contre les maladies. Vous évoquiez AIDS, c'est leur cas par exemple.
Avec peut-être parfois d'ailleurs une forme de parasitage de campagnes qui peuvent être celles de Santé publique France. C'est-à-dire qu'on sent bien que les messages ne sont pas toujours coordonnés. C'est normal puisqu'il y a différents acteurs.
Ce n'est pas le même objet, c'est pas le même objet. C'est-à-dire qu'il y a d'un côté avoir une interpellation du politique sur une problématique de santé publique, la nécessité de définir une politique de santé sur un sujet ou l'autre. Et puis, il y a une communication institutionnelle, si je peux l'appeler comme ça. Et les objets, les finalités et les acteurs qui en ont la charge ne sont pas les mêmes. Je voudrais juste dire, autour de la culpabilité, quand même, c'est même si consciemment, si je puis dire, on ne construit pas de messages culpabilisants, on sait bien après, dans les actions de terrain dont vous parliez tout à l'heure, que certains messages, même s'ils ne sont évidemment jamais construits dans une intention culpabilisante, parce qu'ils sont difficiles à mettre en œuvre, parce qu'ils renvoient à une responsabilité individuelle et forcément à une culpabilité, c'est extrêmement compliqué et l'exercice est extrêmement compliqué de travailler sur ces notions de culpabilité. C'est-à-dire que 5 fruits et légumes peut être, avec certains groupes sociaux, sur certaines actions de terrain, un message extrêmement culpabilisant.
Où s'arrête la responsabilisation, où commence la culpabilisation. C'est pas évident, là, non plus, de trouver le bon dosage, Luc Berlivet.
Oui, on a parlé essentiellement, jusqu'ici, en tout cas, des campagnes de communication. Et puis, à un moment, vous avez fait référence aux visuels qui sont appliqués sur les paquets de cigarettes. Bon, c'est toute la difficulté, effectivement, de prendre en compte l'ensemble des vecteurs, des supports, des médias qui ont pu être utilisés dans la prévention. Par ailleurs, il a été question à plusieurs reprises de la réception des messages, et c'est, me semble-t-il, là le point, que ce soit d'ailleurs la réception des messages ou les usages qui sont faits des autres supports de prévention, il me semble que c'est l'un des points aveugles, ce serait peut-être exagéré, mais enfin en tout cas, un des points sur lesquels on a le moins de données et le moins d'analyses, notamment profondeur longitudinale, c'est-à-dire qu'est-ce qui se passe, quelle est la réception de ces campagnes, qu'est-ce qu'il en reste, y compris après plusieurs années.
David Heard.
Oui, vous parlez de réception de messages. Effectivement, c'est quelque chose auquel on est confronté. Une manière qu'on a depuis quelques années de dépasser ça, c'est de proposer des services qui vont avec ces messages. C'est-à-dire non pas tant en fait d'avoir de promouvoir des repères et de laisser les gens un peu seuls avec ça, mais de leur proposer des services pour les accompagner, pour les aider à adopter ces repères. Donc, on a développé par exemple une fabrique à menus sur le site Manger Bouger qui aide à préparer à manger, à faire ses courses avec tout un tas de services pour favoriser l'adoption d'une alimentation saine et équilibrée. Et ça nous permet aussi de voir que les messages sont bien reçus puisque les gens ont recours à nos services et que le recours à ces services, je parlais de Tabac Info Service aussi tout à l'heure, nous montre qu'il y a une adhésion et un empowerment, une incapacitation des gens qui peut être accompagnée. On peut prendre le relais au-delà du message par des dispositifs pérennes d'accompagnement individualisé pour favoriser l'adoption d'habitudes de vie favorables à la santé.
Hervé Flancard, sur la question de la culpabilité, on a parler de ceux qui reçoivent les messages, c'est-à-dire les individus que nous sommes tous ici autour de cette table, mais est-ce qu'il n'y a pas aussi un phénomène pour comprendre peut-être l'évolution de cette façon dont on fait des campagnes de prévention aujourd'hui et dont on apprécie les risques? Est-ce qu'il n'y a pas aussi une dimension de la part des autorités publiques de dire, bah voilà, en gros, on vous avait prévenu et maintenant vous êtes suffisamment responsable, suffisamment grand pour adopter les bons comportements, mais ne revenez pas vers nous pour nous reprocher de ne pas avoir pris les mesures, de ne pas avoir envoyé les bons messages.
Oui, parce que d'une certaine manière, les autorités publiques, elles doivent gérer deux risques. C'est-à-dire qu'elles doivent gérer le risque pour leurs concitoyens et puis le risque pour leur carrière, pour leur image. Et en fait, on a vu dans le passé quand même des événements qui ont montré que on peut évoquer l'affaire du sang contaminé, on peut évoquer le contraire, c'est-à-dire l'achat de vaccins en très grande quantité par Roselyne Bachelot, qui était à ce moment-là ministre de la Santé.
Dans contre la grippe A, à l'époque.
Voilà. Dans le premier cas, on a reproché aux politiques de ne pas avoir assez agi, de ne pas avoir été assez réactif, etc. Et dans le deuxième cas, on a reproché en quelque sorte à Roselyne Bachelot d'avoir été dans l'excès, etc. Le problème qui se pose, c'est que la décision, le politique la prend de faire une campagne, d'agir, etc., face à une situation qui est en pleine incertitude, et on va juger son comportement à ce moment-là, quand l'événement aura déjà eu lieu ou pas lieu, c'est-à-dire qu'il y a un jugement a posteriori. Et donc, c'est toujours plus facile de savoir ce qu'il aurait fallu faire. C'est un peu le supporter qui peut dire que le coach aurait dû faire entrer tel joueur ou tel joueur après le match. Et donc, le politique, il y a toujours un danger d'en avoir fait trop ou pas assez. Hein, et donc, ça peut pousser, comme on lui reprochera plus facilement de ne pas en avoir fait assez, ça peut le pousser à faire des campagnes de prévention, des actions, etc., qui vont dans l'excès inverse. Au moins, il se couvre.
Ça peut pousser Laurent Beck à faire de plus en plus justement de campagnes de prévention. Aujourd'hui, il y en a énormément. Il y a une profusion de messages qui font peut-être d'ailleurs que parfois, du coup, on a peut-être davantage de mal à les percevoir et à les intégrer dans nos comportements parce qu'il y en a beaucoup.
Bah, c'est évident, il y a une pluralité de thématiques, de messages, même de types de messages, parce que là, on parle de messages de l'agence, mais il y a plein d'acteurs de prévention qui eux-mêmes peuvent venir parasiter ces messages par une autre approche, etc. Évidemment qu'on est confronté à une pluralité de messages qui fait que la prévention est perçue comme les empêcheurs de tourner en rond, parce que si on fait une étagère avec l'ensemble de ces messages-là, c'est évidemment impossible de vivre et se prémunir de l'ensemble des risques desquels ces campagnes voudraient nous prémunir. Ça pose pour moi deux questions. C'est comment, en dehors des campagnes de prévention, on parle aussi des priorités de santé publique, notamment aux citoyens, c'est-à-dire quel sens on donne à ces campagnes, comment ces campagnes sont liées à une politique de santé publique et comment soit on partage ça avec les citoyens, à la fois dans la décision, mais aussi dans la connaissance qu'ils ont des priorités de santé publique, c'est-à-dire que ces campagnes ont parfois du sens et il manque probablement ce travail pédagogique. Et puis peut-être aussi, oui, de faire un travail d'autocritique et de dire est-ce qu'on n'a pas à faire autrement.
Peut-être que pour qu'il n'y ait pas, ou qu'il y ait moins en tout cas, cette impression de profusion et d'inflation de messages de prévention, faudrait-il imaginer, David Heard, de cibler davantage les populations auxquelles on s'adresse? Je pense par exemple à une campagne, alors qu'elle fait un petit peu parler ces derniers temps, elles font régulièrement parler celle-là, hein, cette campagne de lutte contre le sida avec des affiches. Qui était celle donc de France Santé Publique, franchement assez inoffensive, enfin qu'on provoquait des réactions. En tout cas, cette campagne-là, c'est pas tellement pour revenir sur cette politique, mais en tout cas cette campagne-là, elle s'adressait spécifiquement à une population qui est la population homosexuelle homme. Pourquoi en avoir fait une campagne qui soit perceptible par le plus grand nombre alors qu'on vise une population extrêmement ciblée?
Alors effectivement, probablement un progrès qui a été fait au cours des 20 dernières années, c'est un meilleur ciblage des campagnes. Et alors c'est drôle qu'on dit beaucoup qu'il y a profusion des campagnes, alors j'ai presque envie de dire un peu par provocation qu'il y en a plein d'autres que vous ne voyez pas parce que vous n'êtes pas dans la cible et que de plus en plus on travaille vraiment en dentelle et que là où on faisait il y a 20 ans ou 30 ans des grandes campagnes à la télévision un peu pour tout le monde tout le temps, aujourd'hui on a tout un tas de dispositifs très 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 ciblés. Il s'avère que les cibles ne sont pas toujours aussi homogènes qu'on pourrait pourrait le croire. Et puisque vous évoquez cette campagne, eh bien, il y a un certain nombre de personnes homosexuelles qui évoluent dans la sphère publique au même titre que tout un chacun et qui ne sont pas forcément en affinité avec des médias communautaires. Pour informer ces personnes-là, on est obligé de passer par des médias tout publics parce qu'ils sont, encore une fois, avec nous tous. En l'occurrence, il y a une avancée majeure qui a été accomplie dans la prévention du VIH très récemment avec un élargissement de l'offre préventive avec notamment des dispositifs comme la PrEP, la prophylaxie pré-exposition. C'est une des grandes avancées, c'est peut-être la plus grande avancée en prévention depuis l'invention des trithérapies en 1994. Il paraissait absolument essentiel de faire connaître à l'ensemble de la population homosexuelle cette avancée en matière préventive et pas simplement de viser le cœur de cible, si j'ose dire, qui serait finalement un public très, 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 très communautaire. Et c'est pourquoi nous avons choisi d'élargir l'affichage.
C'était un bon choix, d'après vous, Luc Berlivet, Anne-Laurent Beck, Hervé Flancard.
Je ne suis pas nécessairement le mieux placé pour le dire. Non, ce que je voulais pointer ici, c'est que David Heard parle de la multiplication des modalités d'intervention, etc. Ça soulève aussi le point que les personnes définies comme étant les plus fragiles, c'est-à-dire les catégories les plus à risque, pour reprendre le vocabulaire de la santé publique, ne sont pas non plus nécessairement les plus faciles à toucher par des campagnes nationales, et y compris, j'imagine, par des campagnes extrêmement ponctuelles, ce qui renvoie aussi à la question, d'une part, de la réception de ces campagnes, et les deux choses sont liées à leur évaluation.
Sur la question du ciblage, Anne-Laurent Beck.
Alors, je ne sais pas si on peut répondre en quelques mots sur cette campagne particulièrement. Moi, je pense qu'elle avait un avantage, c'est aussi d'être dans l'espace public. Et pour moi, c'est important que la question de l'homosexualité soit aussi dans l'espace public, comme d'autres cibles, etc. Après, effectivement, le ciblage, on revient à la question de la culpabilité ou de la stigmatisation d'un certain nombre de populations. C'est-à-dire que c'est toujours à double tranchant. C'est effectivement, on sait très bien qu'à force de s'adresser à tout le monde, on risque de ne s'adresser à personne. Adressant à quelqu'un en particulier, qu'est-ce qu'on produit de la vision? Voilà, c'est exactement la question autour de ce type de campagne. C'est-à-dire qu'en même temps, pour moi, c'est intéressant aussi que ça aille dans l'espace public. Qu'est-ce que ça produit éventuellement de stigmatisation d'une communauté, etc. Quand on dit population à risque, c'est très controversé. Depuis longtemps, on utilise plutôt comportement à risque que population à risque pour éviter la notion de stigmatisation. Donc, c'est toujours cette espèce d'équilibre où finalement, effectivement, ça a parfois du sens de cibler des campagnes, mais qu'est-ce que ça peut produire?
Hervé Flancard et David Heard.
Je suis tout à fait d'accord avec Anne-Laurent, c'est-à-dire que dans une politique publique, il faut qu'elle soit efficace. Et donc, pour être efficace, il faut qu'elle soit ciblée. Je vais prendre le cas de l'obésité. On sait que l'obésité ne touche pas toutes les couches de la population, qu'il y a certaines couches, notamment les plus populaires, les femmes jeunes, dont le pourcentage d'obésité augmente, etc. Mais d'un autre côté, on court le risque de stigmatisation. Donc, c'est toujours une tension entre les deux, entre l'efficacité de la campagne et de la politique et le risque de stigmatiser, de désigner des personnes comme étant ceux qui se comportent mal, qui mangent mal, qui n'ont pas les bons comportements sexuels, etc. Donc, c'est quelque part, ça se définit entre ces deux pôles-là.
C'est un arbitrage au cas par cas que vous faites, David Heard.
Oui, je crois, on a parlé un petit peu tout à l'heure de l'efficacité des campagnes sur les comportements. Je crois qu'il faut rappeler quand même que le rôle d'un dispositif de communication, c'est d'abord de mettre à l'agenda public une question de santé. C'est d'abord de signifier l'engagement des pouvoirs publics sur une question de santé. Et à ce titre-là, elles ont vraiment leur raison d'être. La deuxième chose qu'on demande à une campagne, c'est de favoriser la mobilisation des acteurs de terrain. Parce que, comme on l'a dit tout à l'heure, la prévention, ce ne se limite pas à une campagne de communication. Et donc là aussi, donner de la visibilité de certains de ces grands enjeux de santé publique dans l'espace public, eh bien c'est une manière de faire avancer la santé, de faire avancer la prévention.
Eh bien merci beaucoup à tous les quatre d'avoir participé à cette discussion. David Heard, Luc Berlivet, Anne-Laurent Beck et Hervé Flancard. Les références bibliographiques notamment, c'est sur notre site franceculture.fr, la page du Grain à Moudre. Un grand merci à toute l'équipe du Grain, Cyril Baer, Fanny Richer, Mélanie Chalandon, Céline Leclerc, émission réalisée par Jean-Christophe Francis avec à la prise de son, Élise Leu. Demain, émission spéciale dans le cadre de la Nuit des Idées. Nous serons en direct et en public du studio 106 de Radio France de 18h20 à 20h. Pour une injonction quasiment, pour une déclaration universelle des idées. Ce sera le thème de cette soirée spéciale avec notamment Thomas Piketty et l'historien Sanjay Subramaniam. Dans un instant, ça c'est pour demain, dans un instant vous allez retrouver Ping Pong avec Mathilde et Martin qui nous donnent un aperçu de leur sommaire. Bonsoir à tous les deux.
Bonsoir Hervé.
Bonsoir Hervé, ce soir c'est un Ping Pong autour de l'histoire dessinée.
Avec l'auteur de manga, Marie Yamazaki, qui vient nous rendre visite avant d'être mise à l'honneur avec son co-auteur Torimiki au Festival International de la Bande Dessinée d'Angoulême.
Et avec Lucie Servin qui collabore à l'exposition Shoah et Bande Dessinée, l'image au service de la mémoire.
Merci à tous les deux, tout de suite c'est le rappel des titres.